fais briller sur nous ta face. Ça veut évidemment dire...
C'est pas enregistré.
Ça signifie évidemment sois favorable. Mais ça signifie rayonne. Hein, fais briller sur nous ta face. Ça signifie rayonne, illumine-nous, émerveille-nous. Et tout au long, dans les soit des paroles de chant, soit dans les prières des uns des autres, nous avons loué Dieu pour sa bonté, mais aussi nous avons mentionné sa grandeur. Donc je propose de lire ces six versets, en l'occurrence, de 25 à 30, de lire le paragraphe, le péricope, on ne va pas, en une fois, et après d'observer un peu comment il se structure. Donc Matthieu 11, verset 25, « En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau léger. Donc quand on lit ça, on a plusieurs impressions. À la fin, on dit « Ah, je connais ». Et c'est bien, et je comprends à peu près. Au début, les premiers versets 25-26, on dit « Oui, ça me dit quelque chose, et je comprends à peu près ». Et puis au milieu, le verset 27, « Tout m'a été remis par mon Père », déjà là, on se dit « Aïe, 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 là je suis dépassé, mais complètement ». Eh bien, il existe plus que complètement dans la Bible. Parce que si on continue le verset 27, personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Alors là, on dit, oh Seigneur, je ne comprends pas du tout là. Et moi qui prêche dessus, je ne comprends pas du tout. Alors vous allez me dire, bah, alors pourquoi tu parles? Eh bien, parce que c'est la parole de Dieu, parce que Dieu parle par son esprit bien au-delà de ce que moi je peux comprendre. Et il se trouve que moi, une de mes grandes bénédictions quand je lis la Bible, ce sont les textes que je ne comprends pas. Parce que là, je suis émerveillé. Et là, en gros, si vous voulez, le message du verset 27, donc c'est le centre, donc on a trois parties dans ce paragraphe que j'ai lu. Et le centre, le pivot de tout, l'explication de tout, la parole ultime de tout le paragraphe, personne ne connaît le Fils. Le texte parallèle de Luc dit, précise, personne ne connaît qui est le Fils, sinon le Père, si ce n'est le Père, et personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Eh bien, si vous voulez, le message de ce centre du paragraphe est extrêmement simple, c'est, et on l'a chanté, Dieu est grand. C'est, il est bien plus grand que je ne le pensais. Il est bien plus grand que même après plus de 50 ans de vie de disciple à sa suite, je n'ai perçu, entreaperçu, expérimenté. Il est bien plus grand que. Alors, ce paragraphe, peut-être quelqu'un se dit, bon, est-ce que présenter ces versets de 25 à 30 comme un tout, est-ce que c'est un choix arbitraire, est-ce que c'est artificiel? Non. Le texte lui-même, si on lit à la suite ce chapitre 11, et en l'occurrence à la suite tout Matthieu, je sais que vous avez eu toute une série de prédications qui suivaient Matthieu comme ça, il n'y a pas mieux dans une église que de suivre le texte, hein? Et dans les maisons aussi. Donc, si on lit à la suite, clairement, si vous voulez, ce qui précède, Jésus parle et il adresse des reproches aux villes dans lesquelles il est venu, où il a manifesté que c'est bien du Père qu'il vient, et où il a fait le plus de miracles. Et donc il y a des reproches. Il dit, si tous les miracles que vous avez vus, vous, telle et telle ville, en Israël, s'ils avaient été faits à Sodome, la ville subsisterait encore. Et donc il leur dit ensuite, à Tyr, à Sidon, une ville païenne. Et ensuite, une fois qu'on a fini de lire « Mon joug est aisé », après, en ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Donc, si vous voulez, clairement, on a ces six versets qui forment un tout. Or, quand on les lit un peu vite, et moi le premier pendant des décennies, à vrai dire, pendant des décennies, j'ai lu les versets 28, 29, 30, « Venez à moi, vous tous qui êtes... » comme un texte en soi, sans voir, ce que maintenant je n'arrête pas de répéter, que c'est l'Écriture qui explique l'Écriture. Moi, je ne l'ai pas inventé ça, hein. Les pères de l'Église l'ont déjà formulé, hein, bien avant moi. Et en vérité, la Bible elle-même le formule, avec d'autres mots. Sans voir que la clé, ce que ce paragraphe m'enseigne, c'est que nous enseigne, c'est que la clé du repos de la foi, repos de la paix avec Dieu. Repos du cœur, de l'âme, la paix avec Dieu. La clé de ce repos, c'est une perception de la grandeur de Dieu. Et ici, en l'occurrence, précisément, de la grandeur du Fils aussi. Si vous voulez, plus on est saisi par l'Esprit de Dieu, de sa grandeur, et du Père et du Fils, mieux on vient à celui qui donne le repos. Et donc, je vais commencer par les versets, enfin on va se pencher, si vous voulez bien, sur le verset 25. Donc là, il est possible que ça suive un y a tout là ? Presque, oui. Voilà. Ah si, je crois qu'il y a tout. Super, ça évitera pour vous de chercher le... Ce verset 25, je le relis en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, alors littéralement, je te confesse. Seigneur du ciel et de la terre. Le premier qui dit que Dieu est grand, c'est le Fils. Alors il le montre, mais il le dit. Et alors, pourquoi je relève que littéralement c'est je te confesse parce que là, il le confesse à des oreilles humaines, bien sûr, qui l'ont écrit après, mais il s'adresse à Dieu. Et confesser dans la Bible, c'est parler en accord avec Dieu. Par exemple, confesser le péché, c'est si Dieu appelle cette chose péché, eh bien, je l'appelle aussi péché. C'est pour ça que la Bible parle de confesser. C'est plus que raconter. Enfin, voilà. Donc, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te confesse, je te loue, je te célèbre, disent certaines traductions, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de ce que tu les as révélées aux enfants. Ce verset va nous aider à rentrer un peu à comprendre qu'est-ce qui fait qu'on ne vient pas bien vers celui dont le joug est léger. Qu'est-ce qui fait peut-être qu'on ne vient pas du tout. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne vient pas, c'est qu'on est sage à ses propres yeux. Tout le paragraphe fait écho au pluriel, premier chapitre du livre des Proverbes. C'est là où on lit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Alors ça ne veut pas dire « deviens décérébré ». Absolument pas. Ça ne veut pas dire « nous abandonnons notre intelligence pour être mieux remplis ». Ça, c'est profondément contraire à toute la Bible. Mais ça veut... Dieu n'a pas dit « jette ton intelligence à la poubelle ». Il n'a pas dit « méprise-la ». Il a dit « ne t'appuie pas sur elle, ce n'est pas elle ton Dieu ». Voilà. Alors, tu as caché ces choses. Littéralement, c'est encore plus énigmatique, c'est « cela ». Tu as caché cela. Et tu as révélé cela. Alors, c'est quoi ces choses? C'est quoi cela? Eh bien, ici dans Matthieu, ce n'est pas très difficile. Qu'est-ce qui précède? Jésus rappelle qu'il allait de ville en ville, en ville, et que il, ben voilà, il qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit. Donc si on veut faire simple, cela c'est qui est Jésus et quel salut il apporte. En gros, voilà, c'est ça. Qui est Jésus et quel salut de la part du Père de Dieu? Quelle bonté, quel salut, quelle délivrance il apporte. Et aussi, quel jugement il apporte. Puisqu'il y a des reproches là, faits aux villes. Dans le texte parallèle de Luc 11, 10, pardon, Matthieu 11, Luc 10, dans le texte parallèle, juste avant, il y a les 70 qui sont envoyés en mission et qui reviennent et qui disent... le Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et donc, Jésus dit un mot sur la défaite du diable, qui est précipitée. Et puis il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Et donc c'est pour ça que cela, tu as caché cela, c'est pour ça qu'on peut dire cela, ça veut dire... qui est Jésus et quel salut il apporte. Inscrire mon nom dans les cieux. Alors, nous ne pouvons pas passer sous silence le texte exact. Nous ne pouvons pas reformuler ce verset 25 en disant comme si Jésus avait dit « Je te célèbre, Père, je te confesse, je te loue de ce que ces choses échappent aux sages et aux intelligents et de ce qu'elles apparaissent aux enfants. Le texte implique petits enfants. Nous ne pouvons pas faire ça. Parce que ce n'est pas ce que Jésus a dit. Alors évidemment, ça, là, il y a toute la dimension de l'élection, de la prédestination, qui apparaîtra aussi plus loin. Donc je ne vais pas, comment dire, voilà, je vais, à regret, je ne vais pas m'y arrêter, vraiment. Simplement, le verset 26 nous dit quelque chose qui aide à comprendre. Au sujet de l'élection et de la prédestination, il s'agit moins de comprendre au niveau cognitif que d'admirer. Et Jésus, après avoir dit ça, il faut avouer que ce verset 25, répété comme ça au premier venu, a fortiori, s'il est très, très, très humaniste, c'est scandaleux. Comment ça? Le Père envoie son Fils et il cache à certains qui il est et quel salut il apporte. Et c'est pas le seul endroit où la Bible dit ça. Or, que dit Jésus juste après? C'est pas quelque chose à cerner et à maîtriser avec mon tout petit, petit cerveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Eh bien, il faut imiter Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Oui, Père, car dans ta bonté, tu l'as voulu ainsi, car tel a été ton bienveillant dessein, et le mot « dessein » dans la Bible, c'est « bon plaisir ». Pas au sens de caprice, c'est le bon-plaisir. C'est-à-dire le plaisir est bon, et ce que Dieu déclare bon est plaisant. Et c'est le bon plaisir de Dieu. Donc littéralement, le texte littéral en grec dit, oui, je te loue, ça c'est implicite, de ce qu'ainsi il y a eu bon plaisir devant toi. Donc, la souveraineté de Dieu, qui est en amont de la bonne volonté de l'humain pour recevoir l'Évangile. Bonne volonté que Dieu sollicite et qu'il prend en compte et ne méprise pas. La volonté humaine n'est pas rien pour Dieu, mais... Et elle est extrêmement importante. Jésus dit, Jérusalem, Jérusalem, j'ai voulu vous rassembler. Puis il dit, vous ne l'avez pas voulu. Vous voyez que la volonté de l'humain, ce n'est pas rien pour le Seigneur. Cependant, en amont de notre volonté si importante pour se repentir, pour être converti par Dieu et le suivre, être disciple, venir à Jésus, notre volonté qui est si importante, en amont de notre volonté, il y a la souveraineté de Dieu. Il est premier, nous sommes second. D'accord? Si on inverse ça, moi je démissionne. Parce que c'est notre sécurité qu'il soit premier, puisque lui seul est bon. Alors, que dit, si vous voulez, le texte parallèle de Luc commence... non pas exactement comme dans Matthieu, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père », etc. Mais par « En ce temps-là, ou alors à ce moment-là, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, tressaute de joie de ce que le Père a caché et révélé. » Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit que la joie suprême de Jésus, c'est ce que son Père fait. Et c'est ce que son Père trouve bon et plaisant. Et le plaisir du Père, de ce que ainsi il, Jésus dit, de ce que ainsi il y a eu bon plaisir devant toi. Le plaisir du Père, c'est clairement cacher son fils, révéler son fils. Alors un tout petit mot quand même pour rassurer certains, ou peut-être aider un petit peu à comprendre. Aider un petit peu à comprendre, cacher. En fait, que veut Dieu de meilleur pour les humains ? Il est attaché à son fils. Et c'est là qu'on peut être adopté. On n'est pas adopté directement par Dieu. Dieu, il n'adopte pas directement Jean. Il prend Jean et il l'attire vers son fils. Et une fois qu'il a attaché Jean à son fils, là, il est adopté. Et c'est pour ça que Paul dit, afin que le fils soit premier-né d'un grand nombre de frères. Premier-né, ça veut dire le principe originel. Donc, à qui Dieu ne cache pas ? À ceux qu'il a prévus joignables à son fils. C'est le sens du salut. Et ça a été cité ce matin, le salut consiste à être donné par le Père à son fils. Verset 27. Tout m'a été remis par mon Père. Alors, si je mets un pied dans... si j'avance un doigt dans le... Tout, qu'est-ce que c'est tout ? Là, on ne va pas manger, hein ? On reste jusqu'à... Tout m'a été remis par mon Père. Tout m'a été remis par mon Père. Éphésiens 1, il a tout mis sous ses pieds. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Et dans Philippiens 2, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ce qui veut dire vivant et mort. Dans le chapitre de Philippiens 2, c'est le Père qui donne ça au Fils. C'est le Père qui lui donne le nom. Et afin que tout genou fléchisse, Paul évoque Ésaïe, je ne sais plus, 23 je crois, c'est plutôt dans Ésaïe, où Dieu dit, je suis vivant, tout genou fléchira devant moi, toute langue confessera. Et Dieu le dit de lui-même. C'est devant le Père, c'est devant Dieu, devant l'Éternel que tout genou fléchit. Et l'Éternel, il donne de ça à son Fils unique. Et le bonheur de Jésus, c'est de dire, eh bien ça je ne l'ai pas tout seul si vous voulez, ce n'est pas moi qui l'ai, ça m'a été remis par mon Père. Et ce n'est pas la seule fois où il le dit, le Père aime le Fils, il a tout remis entre ses mains, et il lui montre tout ce qu'il fait, etc. etc. Vous aurez relevé qu'au début, dans le verset 25-26, Jésus ne parle pas aux gens qui sont, aux disciples qui sont autour de lui, il parle au Père. C'est très important de goûter les textes dans la Bible dont je ne suis pas directement le destinataire. Alors bien sûr que la Bible parle beaucoup de moi. Ne serait-ce que quand elle dit le cœur de l'homme est orgueilleux et elle parle de moi. Mais... elle parle beaucoup de moi. Et quand Jésus dit le Père lui-même vous aime, il le dit aux disciples. Aux disciples, il dit ça. Ça parle de nous. Petite parenthèse. Dans nos églises, il y a peut-être trop de moi et pas assez de nous. Et dans nos chants aussi. Comparé à la proportion de ces deux mots dans la Bible. La communion à Dieu, la piété, la vie de disciple, dans la Bible entière est beaucoup plus souvent formulée en termes de nous qu'en termes de moi. Le moi n'est pas absent, du tout. Voilà, je referme la parenthèse. Tout m'a été remis par mon Père. Et alors voilà maintenant. Aïe, aïe, aïe. Je vais passer un peu vite, bien sûr, sur ce verset, la suite de ce verset 27. Je vais passer un peu vite, mais revenez-y chez vous, revenez-y à genoux, revenez-y et demandez que Dieu, que Dieu fasse briller sa face. Personne, alors Jésus le dit deux fois, personne, personne. On va dire, alors ça, personne ne connaît qui est le Fils, personne ne connaît qui est le Père. On pourrait dire, pardon Seigneur, mais c'est juste on pourrait dire, mais Seigneur, tu as une étrange manière d'encourager les disciples. Personne, personne. Alors, clairement, Jésus a déjà enseigné et enseignera encore plus loin dans les évangiles à ses disciples qu'il révèle le Père, qu'il le fait connaître, qu'ils peuvent le connaître. Et donc, chronologiquement, c'est plus tard qu'il dira « Demandez, vous n'avez rien demandé, demandez. » Et je dis même pas que moi je prie pour vous, parce que le Père lui-même vous aime. Donc, c'est très clair que ce verset 27 ne peut pas être falsifié pour et soutenir l'idée que Dieu serait inconnaissable. Vous voyez, absolument, totalement inconnaissable. Ce n'est pas une idée, c'est une idée étrangère aux Écritures. Alors par contre, dans les Écritures, et là on est en train de le lire, pour nous, tant qu'on est sur terre, il est connaissable en partie. Et c'est déjà merveilleux. Alors, personne ne connaît qui est le Fils. Alors, oh Jésus, Jésus le premier, il a dit, Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Non, Abraham a tressailli d'allégresse, la même expression que pour lui, dans Luc 10. Abraham, ça c'est Jean 8, vers la fin de Jean 8. Abraham a tressailli d'allégresse à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Donc, Abraham, il a quand même connu quelque chose du Fils. Et Moïse. Oui, j'aurais dû dire Moïse pour la suite de la phrase, dont Dieu dit qu'il lui parle face à face. Et personne ne connaît le Père. Mais Seigneur, même pas Moïse. Mais comparé à comment le Fils le connaît, même pas Moïse. Donc, en aucun cas, il s'agit de minimiser Moïse. Hein? Mais simplement, c'est un peu comme quand Jésus dit, il est plus facile à un chameau de passer par le trou de l'aiguille que... Alors, bon, certains y ont vu la petite porte à côté de la grande porte. D'accord, admettons. Mais Jésus dit ailleurs, vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Alors, c'est rare qu'on trouve un chameau dans la tisane. Donc, vous voyez, il y a un langage de contraste pour hurler en silence dans ma conscience la grandeur de Dieu. Quand Jésus dit personne, personne, ça veut dire, ça crie à tout mon être, il est plus grand, il est plus grand. Personne ne connaît le Fils dans Luc, qui est le Fils, si ce n'est le Père. Ça en dit long sur la grandeur du Fils. Il est tellement grand que même Abraham, même etc., et même Pierre qui a dit, qui dira un peu plus tard, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Et depuis 2000 ans, tous ceux qui suivent Jésus, à qui Dieu a, par son esprit, dans les Écritures, Dieu a révélé beaucoup de son Fils. Et c'est son plaisir de révéler le Fils. Et Jésus vient de dire au Père, mais aux oreilles des disciples, qui est ton Fils et quel salut il apporte? Tu l'as révélé aux petits. Oui, nous savons qu'il apporte un si grand salut, comme c'est écrit textuellement dans Hébreu. Mais quand même des phrases pareilles. Je dois avouer que évidemment, ça fait plus de 50 ans que je le lis, hein. Mais j'avais pas vu. Et puis il y a ces derniers, en tout cas ce trimestre-là, il n'y a pas longtemps, c'est mon si précieux et si cher frère Charles-Nicolas Alès qui m'a parlé de ce verset. Et depuis... Combien faut-il qu'il soit hors norme, ce fils, pour que seul le Père connaisse vraiment qui il est. C'est-à-dire, seul le Père le sonde vraiment. Seul le Père pénètre pleinement la pleine nature de son fils. Et réciproquement, symétriquement, enfin, en second bien sûr, mais symétriquement, seul le Fils sonde la pleine profondeur de la nature, de l'essence du Père, dont il dit « Mon Dieu et mon Père ». Alors, personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et la phrase ne s'arrête pas là. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Et donc j'avais dit, l'idée d'élection et de prédestination reviendra dans le paragraphe, et elle est là. Alors certes, ceux qui deviennent disciples de Jésus, à un moment, ont voulu, ils ne sont pas devenus ses disciples sans que leur volonté entre en jeu. Donc ils ont voulu connaître qui est ce prophète, mettons au départ pour certains, ils le reconnaissaient que comme un prophète ou comme un maître, ce qu'il est. Ils ont voulu. Mais Jésus dit, non, ils peuvent pas savoir qui est le Fils, ni quel salut il donne. Si en amont, ils peuvent pas connaître le Père, et l'appeler Père, et ce matin ça a été souligné, quel privilège de dire Père. Abba, en hébreu, ça veut dire Père. Ça ne veut pas dire papounet, hein. Pas du tout. C'est pas du tout. C'est le terme pro à l'intérieur d'une famille, c'est papa. Voilà. Parce qu'on a, abusé de ça, on a abusé de dire. Désolé, ça c'était une petite parenthèse, je me suis lâché là, pardon, excusez-moi. Celui à qui le Fils peut le révéler. En amont de la volonté de celui qui est venu vers Dieu, et Dieu sait, c'est le cas de le dire, Dieu sait si l'Israélite bien constitué, il a envie de venir vers Dieu. Alors, non pas tous. Et l'Ancien et le Nouveau Testament sont clairs, malheureusement, ils n'ont pas le vouloir. Mais après, Dieu, comme c'est Dieu qui est en amont, même ceux qui ne veulent pas, mais des fois ils viennent. Alors, qui vient? Celui à qui le Fils veut révéler son Père. Donc en fait, si on est devenu chrétien, c'est premièrement parce que en amont de nous, et tout à fait hors nous, on n'y est pour rien, c'est une histoire de plaisir entre le Père et le Fils. Le plaisir du Père, c'est de révéler son Fils, et la joie du Fils, c'est d'être révélé par le Père et de faire connaître qui est son Père. et l'esprit, il leur est commun. Il procède des deux et il agit là pour après toucher les cœurs. Mais au départ, on n'y est pour rien. C'est impressionnant. Alors, enfin, on arrive au verset 28, 29, 30. Bon, j'ai dit tout de suite, c'est plus facile. C'est là où on est à peu près le moins perdu. Mais vous réalisez, enfin, pardon, je m'inclus. Nous réalisons maintenant que quand Jésus dit « Venez à moi », parce que le mot-clé de ce verset 28, c'est « moi », et c'est « je ». Alors, ceci, d'autant plus que vous tous qui êtes fatigués, évidemment, ça ne signifie pas que vous avez fait un jogging un peu plus long que d'habitude, et vous êtes fatigués. C'est vous qui peinez sous la charge, sous le fardeau. Et le fardeau n'est pas premièrement le fardeau physique parce que vous transportez d'énormes ballots de paille ou de voilà. C'est le fardeau moral, le fardeau spirituel aussi. C'est toute la douleur de ceux qui écoutent autour de lui, toute la douleur des. Oui, quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher, qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qui est écrit? Il est dit qu'on venait de partout vers lui et que les gens venaient et se faisaient baptiser. Donc Jean-Baptiste avait dit pour le pardon des péchés et il est précisé en confessant leurs péchés. Et donc, et s'ils venaient, parce que le prophète a parlé le premier depuis 4 siècles et demi, hein, à peu près. Ou peut-être je suis pas juste dans les siècles, mais à peu près 4. Pourquoi ils sont venus comme ça, en masse? Bien sûr, c'est l'Esprit de Dieu qui agit. Mais aussi, dans leur cœur, il y a quoi? Il y a le fardeau du péché. Il y a la conscience de la distance avec l'Éternel. L'idée centrale de la repentance, c'est revenir à Dieu. Vous voyez? En s'appuyant, là aussi on abuse en disant c'est changer de pensée. Oui, c'est le sens du mot en grec. Mais le mot grec dans le Nouveau Testament, il a pour socle global ce qui se passe tout au long des Écritures. Revenez à moi, dit l'Éternel, revenez à moi. Et c'est ça qui est reformulé, repentez-vous. Bien que repentez-vous, ça se dit, c'est aussi, on le lit aussi dans l'Ancien Testament. Donc, venez à moi, vous qui êtes chargés. Et quelquefois, c'est pas, pour nous chrétiens, c'est peut-être pas le sentiment de distance, il vaut mieux. Alors, le sentiment de disproportion, qu'il est infiniment plus grand que nous, ça, malheur à moi si je ne l'ai pas. Mais, pour nous chrétiens, donc peut-être pas le sentiment de distance, en tout cas, j'espère, mais la peine des tentations. Une tentation qui persiste, dont je ne suis pas libéré rapidement. Ça, c'est un fardeau pour un cœur pur. Voilà. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et je vous donnerai du repos. Et donc là, il faut bien sûr penser au repos de la foi. Et donc, ce que Hébreux 4 cite, mais ça c'est ce que Dieu dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Qui n'entrera pas? Celui qui s'appuie sur sa propre sagesse. C'est pas par hasard que Paul oppose la réception du message de Christ à la sagesse. Il dit, qu'est-ce qui les empêche de recevoir l'évangile? Leur propre sagesse. Eh bien, quand la propre sagesse, quand je suis sage à mes propres yeux, là, il n'y a pas de repos. C'est là qu'il n'y a pas de repos. C'est là qu'il y a épuisement. Un endroit, Dieu le dit, et je pense que c'est Isaïe ou Jérémie, Et Dieu dit, en parlant collectivement au peuple, il dit, et tu ne dis pas, c'est assez, tu persistes. Tu n'es pas fatigué de me résister. Tu n'es pas fatigué d'aller après les idoles et tu ne dis pas c'est assez, j'en peux plus. Eh bien, tant qu'on n'est pas fatigué d'aller après les idoles, devant Dieu, il n'y a pas de repos. Et c'est quand on dit je cesse, on le sait tous que la conversion implique une capitulation. Et même une fois né de nouveau et disciple de Jésus, il y a des capitulations. Mais 40 ? Même pas. Quel repos après ? Quel repos ? Quel repos à genoux ? Prenez mon joug sur vous. Donc je ne vais pas développer l'image, on la connaît, soit deux animaux de trait, ou même s'il n'y en a qu'un. Le mot-clé, c'est de nouveau mon. Et recevez mes instructions. Et là, il y a une grosse référence à Proverbe 8, où la sagesse dit, recevez mes instructions. Littéralement, ici, c'est apprenez de moi. Rappelons-nous de ça. Parce que c'est la définition du disciple. Il est un apprenti. Il est apprenti. Apprenti, il apprend, et il continue d'apprendre, et il reste là pour apprendre. Et après le dimanche, il revient lundi pour apprendre. Alors nous, c'est bien parce qu'on apprend même le dimanche. Prenez mon joug sur vous, ce qui implique une certaine contrainte. Ça implique d'accepter une dépendance. Et Jésus, il argumente pour qu'on accepte la dépendance. Car je suis doux et humble de cœur. Voyez, prenez mon joug, apprenez de moi. Et là, il aurait pu dire, parce que Dieu est seul sage et que je suis son fils, donc par rapport à vous, je suis seul sage. Et là, il ne dit pas ça, il dit, je suis doux et humble de cœur. Et ils l'ont entendu. Tout m'a été remis par mon Père. Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Donc là, Jésus, là, il n'y a pas besoin en fait de leur dire, oui, il est vraiment doux et humble, lui. Il le démontre, mais à chaque seconde, il le démontre. Rien qu'il arrive, il dit rien, déjà ça sent la douceur et l'humilité. C'est impressionnant. Donc, oui, c'est pour ça qu'il emploie le mot joug. Parce qu'il dit, il faut vous attacher à moi. Parce que vous deviendrez comme ça. Doux et humble. Et dès le départ, caché aux sages, révélé aux petits, il y a l'humilité qui est posée comme clé. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et ça me touche cette symétrie entre, avec la nuance, avec une nuance, entre et je vous donnerai au début du repos, et puis là, vous trouverez du repos. C'est-à-dire, je vous donnerai, ça peut être instantané. Je me repens, je viens, j'abandonne, je capitule, et je me confie en toi, et le repos instantanément, ou en tout cas vite, des fois très vite. Mais aussi, en restant en apprentissage avec lui, au long de la marche, je trouve du repos concernant de plus en plus de domaines et de points. En gros, l'apprenti a du repos, l'indépendant s'épuise. Le disciple reçoit de la paix, trouve du repos. Car, je finis là-dessus, c'est trop beau. Encore un petit détail, hein, désolé, mais c'est pas, je vous promets, ce n'est pas pour faire le beau là, que bon, moi j'ai vérifié dans le grec, tout ça, mais littéralement, car mon joug est bon. Ah, ça il faudra s'en rappeler, hein, parce que quand on chante tu es bon, ça implique, tu me dis de prendre ton joug. Ça implique que tu me dis accepte une certaine contrainte, parce que c'est moi le maître et toi le disciple, ce n'est pas réversible. Car mon joug est bon et mon fardeau léger. Là, il y a sans doute une antinomie volontaire, parce que bon, pour les humains, surtout ceux qui, depuis des décennies, peinent, quelqu'un qui leur dit, ah bon, moi j'ai un joug, mais il est léger. J'ai un fardeau, mais il est léger. Ah bon, ça existe ? Oui, parce que Dieu, le Dieu des miracles, avec Jésus, ça existe. Amen. Fais briller ta face sur nous, Seigneur. Merci pour les Écritures et pour ce texte aujourd'hui, particulièrement. Oh, merci, Seigneur, qui nous tire et nous pousse à lever les yeux du cœur vers ta grandeur.
Merci beaucoup, Jean. Merci, Seigneur, pour ta parole. On a de quoi relire et méditer. Je finirai par